le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente un enregistrement réalisé à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage. Le village enfoui par Gérard Guillet, G-U-I-2-L-E-T. Castor Poche, Flammarion, 1989, collection Castor Poche Cadet. Première cassette, première face. En ces temps-là, la mer était rude. Les hommes la respectaient et l'aimaient. Ils la sentaient forte et riche de secrets, capable de donner le bonheur et tout autant de malheur à ceux qui lui consacraient leur vie. Sur la côte de Bretagne, entre Saint-Nazaire, S-I-N-T, trait d'union N-A-Z-A-I-R-E, et Le Croisic, L-E, plus loin, C-R-O-I-S-I-C, se trouvait le village d'Escoublac, E-S-C-O-U-B-L-A-C, agglutiné autour du prieuré bénédictin et du clocher de Saint-Pierre. Quelques familles vivaient là d'un peu de pêche, d'un peu de culture et d'un maigre troupeau. Le révérend père abbé du prieuré dirigeait le monastère et le village. Cependant, il lui fallait partager son pouvoir avec la mer, le vent, les hivers trop froids, les printemps trop humides et les étés trop secs. L'année était bonne s'il n'y avait pas eu de naufrage, si la vendange remplissait bien le chai, si les brebis avaient donné beaucoup d'agneaux et si les naissances parvenaient à combler les décès. Le révérend père était plus que satisfait si, par chance, les soldats ou les brigands avaient oublié de rançonner le village. C'est au cœur de cette vie imprévisible et simple que Geltraz, G-U-E-L-T-R-A-Z, devenait un beau et grand jeune homme. Il n'avait pas de famille. Il logeait dans une petite maison que les moines lui laissaient. En échange, il travaillait au prieuré. Il gardait les moutons sur les oyas, O-Y-A-T-S, les grandes herbes des sables. Il puisait l'eau, il vendangeait, gaulait les noix et les pommes à cidre, faisait tourner le moulin, aidait à sonner les cloches, et même, quelquefois, il portait la grande croix dans les processions. Geltraz, sans fortune, conservait et entretenait avec dévotion un petit bateau, seul héritage de ses défunts parents. Souvent, il l'utilisait sur la baie pour pêcher, pour rêver, bercé par la mer. Certaines nuits, poussé par un désir puissant, il embarquait ainsi pour retrouver ses mondes imaginaires. Au village, on le trouvait bizarre. Quelle idée de dériver pendant des heures quand il y a tant d'ouvrages. Les femmes riaient de lui à cause de son allure trop fine, de ses yeux trop doux et du peu d'intérêt qu'il manifestait pour les jeunes filles. Elles disaient entre elles, « Le Geltraz, il ne se mariera pas, dame, non, il se mariera pas. » Les hommes, pour le taquiner, lui demandaient souvent, « Alors, nous inviteras-tu bientôt à la noce? As-tu trouvé femme ?» Et il répondait sans se fâcher, elle viendra, vous verrez, elle viendra. À l'en croire, ce ne serait donc point une fille d'Escoublac, mais une étrangère. Or, les étrangers étaient rares dans le pays. De temps en temps, une voiture traversait le village au grand galop. Mais c'était de riches marchands, propriétaires ou intendants royaux. Jamais fille en quête d'épousailles. Elle viendra, répétait pourtant Geltraz. Le printemps fut très doux cette année-là. Dès les premiers soirs de mai, il était agréable de se promener sur le sable en écoutant mourir les rouleaux dans leurs soupirs. À la poussière d'étoiles répondaient les milliers d'écailles de lune sur la mer. Le grand jeune homme s'imaginait être le seul à connaître toutes ces merveilles. Il est vrai qu'on faisait peu de rencontres à cette heure avancée. Là-bas, les moines psalmodiaient les actions de grâce, les villageois se préparaient à dormir, bêtes et gens sous le même toit, dans la même nuit. Une à une, les chandelles seraient soufflées, en commençant par celles des plus humbles maisons. Alors, peut-être Geltraz, dans son bateau, partirait-il sur le sommeil du monde ? Peut-être irait-il jusqu'à la pierre, ce gros rocher carré au large ? Il y écouterait les mouettes endormies et les goélands gargouillés dans leurs rêves d'oiseaux. Il entendrait, si la mer était basse, les bruits mouillés des crabes en balade sur les algues affalées. Au sommet du rocher, Geltraz irait sentir les petites fleurs presque sèches, les œillets mauves et blancs fermés sur leurs provisions de soleil. Peut-être dormirait-il sur place, enroulé dans la voile, jusqu'à l'aube fraîche. Ce soir-là, donc, Geltraz se préparait à embarquer quand il crut entendre un rire sur la plage, une femme, sans doute quelque villageoise venue l'épier pour mieux se moquer de lui le lendemain. Il se mit à courir vers elle. « Hé là, oh !» Une mouette en suspens sur la brise de la nuit lança son rire moqueur. Le jeune homme se dit que l'oiseau avait dû lui jouer un tour. Il avait cru entendre une femme, il avait cru la voir, et c'était une simple mouette rieuse. Revenant à son bateau, il largua la voile et mit le cap sur le rocher carré. Cependant, sur la mer paisible, il était troublé. Cette même année, une tribu romanichelle séjourna près du village. Bien sûr, chacun veilla sur ses poules, bien sûr, on raconta de sordides histoires. Pourtant, entre les roulottes, il y avait beaucoup d'enfants presque nus et des guitares merveilleuses. Geltraz fut le seul villageois à venir le soir aux fêtes nomades. Des filles à la peau mate faisaient voler leurs longs cheveux noirs au rythme des musiques. Des vieillards édentés chantaient avec une foi surprenante. Le jeune homme d'Escoublac avait été accepté facilement. Cela scandalisait les commères sous le clocher de Saint-Pierre. Les ragots fleurissaient. On chuchotait qu'il allait partir avec les gitans, qu'il était amoureux d'une belle créature aux yeux de braise. Lui n'entendait rien, heureux que ses amis Romanichel aient secoué un peu la monotonie de la vie. Or, un jour, la fille des roulottes offrit de lui lire l'avenir dans la main. Pour quelques poissons, elle prononça des paroles mystérieuses. « Je vois sur ton chemin le souffle blanc et la montagne qui marche. Je vois un voyage difficile par l'eau et la lumière, une porte, une grande porte pour un roi terrible. » Une maison cachée. Je te vois heureux, aimé. Une vie de silence et d'amour. Chaque mot tomba comme un pavé dans l'âme limpide du jeune homme. Sans bien comprendre tout le message, sans trop y croire, il s'accrocha à la promesse d'amour marquée dans ses mains, et de ce jour, il commença d'attendre. Elle viendra. Elle viendra. Un matin, la tribu partit, ne laissant près du village que les cendres froides des feux et Geltraz. Accaparé par les besognes printanières, il espérait en secret. Les brebis réclamaient beaucoup d'attention. Déjà quelques-unes avaient mis bas. Les agnelets maladroits, perchés sur leurs pattes frêles, se fatiguaient vite. Il fallait les porter. Un regain de vie envahissait les pâtures et les enclos. Pour la plupart des villageois, cela sentait les prochaines foires de Guérande, G-U-E-R-A-N-D-E, la ville voisine. Les femmes faisaient des projets de draps et de toiles, d'huile et de sel. Au fond des caves, on nettoyait sans perdre de temps les charniers où l'on conserve la viande salée et les jarres où l'on conserve l'huile. Geltraz ne jouissait pas des mêmes plaisirs. L'approche de la grande marée et des fêtes populaires, c'était pour lui peut-être le début de la promesse. Le premier signe eut lieu peu avant Pâques. Le jeune homme gardait ses moutons sur la grève. La mer était basse. Une foule d'oiseaux picorait les coques, les coquillages, qui étaient découvertes par la marée basse. Des pluviers retournaient les galets d'un coup de bec et se gavaient de petits crustacés. Une mouette vint subitement voler au ras du troupeau. Les agneaux s'affolèrent et le chien la poursuivit en aboyant. Gueltraz calma tout son petit monde. La mouette revint et tournoya autour de lui. Elle était superbe. Soudain, elle s'arracha une plume qui tourbillonna jusqu'au pied du berger. Il la ramassa et l'oiseau blanc disparut. Il y eut alors un surprenant coup de vent. Le sable fin de la plage fut soulevé en nuages et retomba tout autour du troupeau. N'importe qui d'autre n'aurait fait aucun cas de ces petits événements. Gueltraz, au contraire, pensa au souffle blanc prédit par la bohémienne et il serra la plume dans sa main. Il savait que tout commençait. Le lendemain, il reconduisit son troupeau au même pâturage, en blanche, le vent ou tout autre signe. Le soir rougissait déjà. C'était l'heure du retour. Le chien rassemblait les bêtes quand une jeune femme s'avança sur la plage. Le berger, tendu d'émotion, essaya de faire les gestes habituels sans rien laisser paraître. Elle le rejoignit alors qu'il était sur le sentier du village. Elle était belle. « Bonsoir, » dit-elle. « Bien le bonsoir, demoiselle. » Vous rentrez au village ? Oui. Ils parlèrent peu, marchant d'un même pas au son des bêlements. Gueltraz remarqua une déchirure de la robe blanche juste sur l'épaule. Il ne dit rien. Parvenue aux premières maisons, elle le quitta. Mon père m'attend, dit-elle. Puis elle s'en retourna vers la côte. Le jeune homme, tout joyeux, arriva chez lui. Tard dans la nuit, il ne trouvait pas le sommeil. Il revoyait le visage de la fille, sa démarche légère, son tendre sourire. Il entendait sa voix douce. Elle lui rappelait, oui, elle lui rappelait pour une raison indéfinissable, la mouette. Gueltraz se leva. Il ralluma la chandelle de suif et ouvrit une boîte. La plume qu'il avait l'autre jour déposée comme un trésor n'y était plus. À sa place gisait maintenant une petite pièce d'étoffe blanche. À n'en point douter, elle provenait de la déchirure sur l'épaule de la jeune fille. Gueltraz passa en hâte une houppelande et sortit comme un fou, laissant sa porte ouverte sur la nuit. Essoufflé, excité, il déboucha sur la plage déserte. Il tomba assis sur le sable. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Il se mit à parler tout haut. Elle allait sûrement revenir. Il l'attendrait jusqu'à l'aurore, et même plus. Il l'attendrait de toutes ses forces. Tant pis pour les moines et leurs moutons. À peine vêtu, il sentit bientôt la fraîcheur de la nuit le pénétrer. Des frissons le secouaient. Il s'était recroquevillé sous sa houppelande. Combien de temps espéra-t-il ? La lune seule saurait le dire. Une voix, étrangement lente et grave, se fit entendre.
« Jeune homme, fils de la terre, comment oses-tu te croire digne d'une fille du vent et des espaces ? Impossible union, retourne à ta poussière et n'y songe plus. »
« Qui parle ?» demanda Gueltraz en se dressant.
Je suis celui qui court autour de la terre, libre de gonfler les voiles et de manœuvrer les ailes des moulins, indomptable dans mes colères, qui couche vos moissons et brise vos haies. Tu pourras dire que le vent t'a parlé. Retourne maintenant à ta poussière et ne songe plus à ma fille.
Où vous cachez-vous ?
Retourne à ta poussière, fils de la terre.
Un tourbillon de sable s'éleva à nouveau avec violence et menaça, en retombant, d'ensevelir le jeune homme. Arrêtez, arrêtez, j'aime votre fille.
Es-tu donc un héros ? Un géant? Un lutin?
Non, je suis homme, mais je suis prêt à tout pour être digne de son amour.
À tout?
Oui, à tout!
La voix éclata d'un rire moqueur. Ha 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 ha! Vraiment à tout! Eh bien, nous allons voir. Je vais te demander d'accomplir 3 ouvrages. Si tu y parviens, alors tu seras digne de ma fille.
Je vous écoute.
Tu connais le rocher carré. Je désire que tu y fasses un trou, de part en part. Ainsi mon souffle puissant sifflera en y passant. Vas-y, je t'indiquerai le second ouvrage quand ce premier sera bel et bien achevé. Ha 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 ha! Vas-y, fils de la terre!
Geltraz se leva, secoua le sable qui le recouvrait et partit vers son bateau. Le rocher carré dormait là-bas, sa masse noire au-dessus de l'horizon comme une citadelle trapue bordée d'écume. Le jeune homme se demandait par quels moyens il pourrait creuser. Il regardait ses mains blanches et nues, ses seuls outils. Le rocher si familier lui paraissait soudain monstrueux, haut comme 3 maisons, large comme l'abbatiale du prieuré. Des volées d'embrun s'abattaient de tous côtés. La mer était haute. Geltraz connaissait assez bien les lieux pour savoir où amarrer sa barque sans trop de risques. Puis il gravit l'îlot et fut rapidement au sommet. Là, il s'assit. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Un trou de part en part dans cette énorme pierre, mais c'était du travail pour plusieurs hommes, pendant plusieurs semaines. Pourtant, il fallait réussir. Une mouette arriva, au ras des vagues. Sous la lune, elle semblait encore plus blanche. Geltraz la reconnut à l'instant. Elle serrait dans son bec un long poisson argenté. D'un vol rapide, elle vint au-dessus du jeune homme qui l'embrassait du regard et lâcha sa proie sur le rocher. Un tintement métallique résonna. Le poisson était devenu épieux. Geltraz s'en saisit et descendit attaquer la roche. Il se sentait débordant d'ardeur. Il creusait hardiment. L'outil magique s'enfonçait comme dans du sable. Les vagues emportaient chacune leur fardeau de cailloux. Des gerbes d'étincelles rythmaient la joie du jeune homme. Il tenait au bout de cet épieux un peu de son bonheur. La nuit s'arrêta, peut-être pour laisser le prodige s'accomplir. Toujours est-il que le soleil, en se levant, put enfiler ses premiers rayons par le trou de la pierre. Depuis lors, on appelle ce rocher la pierre percée et le vent ne cesse d'y siffler. Pendant toute la journée qui suivit, les habitants du village défilèrent pour contempler l'incroyable chose. Chacun cherchait vainement une explication. Certains crurent simplement que la mer avait fini par user la pierre. D'autres, plus savants, inventaient des phénomènes alchimiques. Le père abbé lui-même vint sur la plage en homme de Dieu et en chef de communauté. Il décida que c'était l'œuvre des démons. Il ordonna que l'on célèbre un office spécial. Il se faisait fort d'exorciser ainsi les forces du mal. Geltraz restait sur la pierre percée. Il attendait les ordres du vent pour le second ouvrage. À la tombée du jour, une procession illuminée de flambeaux serpenta sur la côte. Les voix monocordes des moines répandaient aux chants grêles des villageoises. Les cantiques portés par les flots arrivaient par bouffées aux rochers. C'est à ce moment que le maître des espaces se fit entendre pour la deuxième fois.
« L'ouvrage est bel et bien achevé, fils de la terre. Tu as réussi, mais... de là où je t'envoie maintenant, peu reviennent. Je désire que tu ailles sur l'île verte. »
Sur l'île verte? Mais comment pourrais-je?
Vas-y, et fais carillonner le clocher de ce séjour des morts. Si tu y parviens, alors je t'indiquerai le troisième ouvrage.
Je pars. Vous ne savez pas le courage que me donne l'amour. »
Tout le monde connaît en Bretagne le chemin qui mène à l'île verte. Chaque soir, à l'heure où le soleil envoie son dernier rayon, une lueur verte descend au fond de la mer. Là, elle éclaire l'île où les trépassés sans sépulture attendent. Pour eux, c'est le signal du départ. Ils embarquent sur les bateaux noirs, épaves et carcasses. Remontés à la surface, ils accostent et partent en quête de rédemption. Mais malheureux le vivant qui met un pied dans les barques noires. Aussitôt, elle hisse la voile, cap au fond, et emporte leurs passagers au séjour des morts. Bien que pétri de crainte, Geltraz se mit donc à la recherche d'une barque noire. Il revint à la côte et marcha. Longtemps, il marcha. Il désespérait de trouver. Déjà, le vent lui soufflait aux oreilles l'amertume de la défaite. Quand il aperçut, blotti dans une étroite crique, une épave envasée. Rien ne laissait penser qu'il s'agissait bien d'une de ces fameuses barques. Cependant, Geltraz remarqua des algues accrochées très haut dans la mâture. D'un pas décidé, il sauta à bord. La voile claqua sec. De tous ses bois, la carcasse grinça et prit le large. Puis elle s'engloutit au fond des eaux. Impossible voyage. Le passager vivant allait pénétrer le monde des trépassés. Il entendit des cris, des chants joyeux, des hurlements. Il fut englobé dans une énorme bulle. Prisonnier volontaire, il vit des êtres extraordinaires. Un homme immense qui dormait. Les jambes terminées en sabots de cheval. Tous les musiciens de la ville d'Is, la ville engloutie, jouant d'instruments d'or et absolument muets. Il croisa le squelette gigantesque du dragon de Saint-Paul et toutes les tempêtes à venir enchaînées dans les crevasses. Il vit, il entendit beaucoup d'autres choses ineffables et plus qu'aucune mémoire n'en peut retenir. Au bout du voyage, Geltraz dut faire un effort pour se souvenir de l'ouvrage qu'il venait d'accomplir. Il débarqua sur un port de pierre verte. Il chercha en vain quelqu'un. Les rues pavées résonnaient de son seul pas. Les portes des maisons paraissaient lourdes et restaient obstinément closes. Le village entier exhalait le moisi et la pourriture. Des goémons pendaient aux cheminées froides. De grands varechs cachaient mal la nudité des arbres morts. Malgré sa terreur, le jeune homme s'enfonça dans le dédale des ruelles glissantes. Il courait presque, essayant de voir un clocher. Enfin, il découvrit l'église. Elle était rase, écrasée sous un épais toit d'ardoise rouillé, sans tour. Geltraz s'assit un moment sur le muret de l'enclos. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Il fallait sonner les cloches de cette église. Sous le porche, une sculpture décorait la partie centrale du fronton. Un oiseau de pierre, peut-être une mouette, tenait en son bec un ruban de parchemin. Un message y était inscrit. Malgré l'usure de certaines lettres et les mousses vertes qui en masquaient quelques autres, Geltraz parvint à déchiffrer l'inscription en vieux français. « Au soleil immergé sonnera le départ de cestui-là qui mendie le repos éternel. Au soleil exhumé sonnera le retour. » La vue de cette mouette fut d'un grand réconfort pour le jeune homme. Il se persuada que le message du fronton s'adressait à lui. Sûrement que la fille du vent tentait une nouvelle fois de l'aider. Il réfléchit sur chaque mot. Leur sens lui apparut bientôt évident. Le soleil immergé, c'était le soleil couchant, le rayon vert signal de la remontée pour les trépassés. Celui qui sortait de terre, le soleil levant, signal du retour. Il semblait donc possible de sonner une cloche aux deux extrémités du jour. L'aurore approchait. Geltraz se précipita dans l'église. Sous la voûte obscure, il scruta les moindres renfoncements. Le prêtre se tenait agenouillé au pied du maître-autel. Accepterait-il de renseigner un vivant ? Mon père, où est la cloche de l'église ?
Église, église,
répéta l'écho sinistre. Mais le prêtre resta figé, les yeux clos, la peau cireuse, les lèvres crispées sur un silence de mort. Par les vitraux béants, le jeune homme vit le ciel changer de couleur. L'aube ne tarderait plus. Une porte basse se dessina au fond d'un transept. Il l'ouvrit et, à sa grande surprise, il se trouva devant une échelle. Il monta. Au premier palier pendait une corde usée. Geltraz sonna de tout son cœur. Avec l'élan qu'il lui fit donner ce jour-là, la cloche des trépassés sonne encore. Parfois, on l'entend à la pointe du croisic et sur la côte sauvage. Ah, mon ami, tu m'as devancé ce matin. Continue donc. Geltraz reconnut la voix du frère sacristain du prieuré Saint-Pierre. Sans s'en apercevoir, il était revenu au monde des vivants. Malgré le trouble qui le bouleversait, il se maîtrisa et ne révéla rien de son secret. Par quel chemin était-il de retour ? Qu'importe, le deuxième ouvrage était accompli. Accroché à la cloche des matines, il mit une ferveur inhabituelle à prévenir son village de la nouvelle aurore. Comme à l'accoutumée, Geltraz resta pendant tout l'office derrière l'autel. Autour de lui, rien n'avait changé. Les gens, les choses remplissaient leurs fonctions habituelles. Le père abbé présidait, les cierges brûlaient, la lumière matinale débordait par les vitraux, les moines chantaient, l'encens montait presque droit, avec le même parfum doucereux. Et pourtant, le jeune homme se sentait étranger. On ne fait pas impunément le détour dans les sentiers de l'invisible. Le passé devenait si lointain, l'avenir si incertain, et le présent si trouble qu'un mélange d'inquiétude et de joie l'empêchait de poser une à une ses pensées. Il s'impatientait de connaître enfin le troisième ouvrage. Jusqu'ici, la chance et la force de son amour l'avaient aidé, mais l'ultime épreuve serait certainement la plus redoutable. Il se répétait la prédiction de la bohémienne. « Je vois sur ton chemin le souffle blanc et la montagne qui marche, un voyage difficile par l'eau et la lumière, une porte, une grande porte pour un roi terrible, une maison cachée. Je te vois heureux, aimé, une vie de silence et d'amour. » La porte pour le roi, c'était le trou dans le rocher carré. Le voyage par l'eau et la lumière prédisait le séjour à l'île verte. Il fallait maintenant découvrir le sens de la montagne qui marche. Fin de la première face de cette cassette unique, Le village enfoui, par Gérard Guillet, page 42.